about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Bruno Gagnère, réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Emmanuel Giuliani, Laurent Burry, Emmanuel Dupuis. À notre affiche, Les Troyens d'Hector Berlioz, dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov, sous la direction de Philippe Jordan à l'Opéra de Paris, et puis un comparatif de deux versions de Wojciech d'Abenberg, toutes deux en DVD. L'une est mise en scène par William Kentridge et dirigée par Vladimir Jurovski, l'autre mise en scène par Christophe Warlikowski, dirigée par Marc Albrecht. Il y aura également un coup de cœur, celui de Laurent Burry ce soir pour un Péléas et Mélisande de Claude Debussy en CD, une version de 1962, on en parle tout à l'heure. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle « Certaines n'avaient jamais vu la mer » de Julia Otsuka, mise en scène par Richard Brunel. Ce sont des places à gagner pour ce samedi, le 2 février, à 20h, à la Comédie de Valence. Et nous ouvrons cette dispute avec une nouvelle production des Troyens de Berlioz, sous la direction de Philippe Jordan, mise en scène Dmitri Tcherniakov, inspiré de l'Énéide de Virgile. Cet opéra va donc suivre Énée, gendre du roi de Troie, Priam. Comme c'est un demi-dieu, il survit à la destruction de Troie. On va le voir dans cet opéra, dans les derniers jours précédant la prise de Troie par les Grecs. Et puis ensuite, on suivra Énée chez Didon, avant la fuite pour l'Italie, où il fondera la future Rome, ce qui est une autre histoire, puisque si Énée est présent dans les cinq actes, il y a deux rôles féminins très importants, on va en parler, Cassandre puis Didon. On va écouter cette dernière, un rôle tenu par Ekaterina Semenchuk, ici avec Aude Extremo dans le rôle d'Anna. C'est un extrait de l'acte 5.
Oh,
Voilà pour cet extrait. Alors c'est toujours délicat d'entendre les extraits quand on n'a pas, quand on n'est pas dans la salle. Peut-être juste quand même avant de parler du plateau vocal, de la mise en scène, pour commencer, les Troyens, souvent à Paris, mais souvent ailleurs aussi, c'est d'abord la question des coupes. Qu'est-ce qui reste ? Non, mais ce sont des choix qui sont évidemment importants pour l'intégralité de ce qu'on va dire ici, c'est-à-dire comment s'envisage ce spectacle et dans sa mise en scène et dans sa partition. Laurent Buret, quels choix ont été faits ici ?
Alors,
pour essayer de résumer pour nos auditrices, auditeurs, peu familiers de l'œuvre.
Ils ont coupé tout ce que Berlioz appelait les pantomimes, la plupart d'entre elles, et aussi le ballet. Ce sont des musiques dont Berlioz n'avait pas spécialement prévu qu'on les couperait, sauf si on les donnait dans de petits théâtres n'ayant pas les moyens de les représenter
comme
correctement.
Bastille.
Oui, voilà, comme l'Opéra de Paris. Et en tout état de cause, il n'y a pas de raison particulière de préférer couper ces passages-là que d'autres. Simplement, ce sont des passages qui ne sont pas chantés. À part dans le ballet, il y a un petit morceau qui est censé être chanté. Il y a des paroles en faux africain écrites par Berlioz lui-même. Donc ça, on ne les entend pas. Et plus grave, il y a quand même une scène qui comptait beaucoup aux yeux de Berlioz. Pardon. C'est une scène où deux Troyens parlent de leurs amours avec des Carthaginoises. Ça se situe au début du cinquième acte. C'est juste avant le moment dramatique au possible des adieux de Didon et d'Énée. Et Berlioz avait voulu cette scène comme un moment de contraste entre une scène justement délibérément comique et tout le tragique qui allait suivre. Et bizarrement, ça s'est coupé à Bastille. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça ne dure pas très longtemps. On ne gagne pas énormément de minutes à couper cette scène-là. Mais voilà, elle a été coupée.
Emmanuel Giuliani, alors, par rapport à ces coupes, vous les comprenez plus ou moins ? Vous les regrettez ?
Alors, le ballet, je ne le regrette pas vraiment vu la direction d'orchestre.
Oui, mais ça, on peut dire ça aussi pour la mise en scène. On peut dire qu'on peut aussi ne pas regretter les coupures.
Rétrospectivement, voilà. Et le duo dont Laurent vient de parler, je le regrette beaucoup parce que c'est vraiment un aspect très shakespearien. Avoir un moment comique entre deux sentinelles,
un moment de farce avant la grande catastrophe finale
où ça n'ira que de mal en pis. Donc là, c'est très dommage. Et dommage aussi, alors que là, c'était l'affaire de quelques minutes, à peine, qu'on ait coupé aussi une partie de l'air d'Hylas qui précède, qui est un très, très, très bel air de ténor, ces airs élégiaques, comme est celui de Iopas un peu avant. Alors, certes, le chanteur n'est pas totalement excellent, mais l'air est merveilleux. Et donc là, j'avoue que je ne comprends pas très bien non plus, sinon peut-être une question de timing, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu mystérieux.
Non, je disais, comme souvent, ou comme presque toujours, ces Troyens, ils sont quand même souvent réduits. Mel Dupuis, pourquoi il y a on a l'impression que c'est presque une tradition.
Bah oui et non, parce que je veux dire, quand Châtelet a monté les Troyens en 2003, c'était la version intégrale quand ça a été
donné. Donc c'était il y a 15 ans.
Quand ça a été donné à Strasbourg en concert la saison dernière, ou il y a deux saisons, c'était hyper intégral.
Concert, c'est encore autre chose.
Oui, mais je vois pas pourquoi l'Opéra de Paris a quand même aussi une mission patrimoniale.
C'est pour ça que je pose la question.
On est en pleine célébration d'une année Berlioz, on célèbre les 150 ans de sa mort. C'est quand même une drôle de manière de célébrer la mémoire de Berlioz que de mutiler ce qu'il considérait comme son chef-d'œuvre. Et effectivement, et d'autre part, comme l'ont dit mes camarades, d'un point de vue dramatique, ça pose problème. Le fait que l'on supprime ce duo des sentinelles et puis l'intervention de Panté qui suit, fait que l'air d'Énée qui arrive comme un cheveu sur la soupe. L'hésitation d'Énée qui n'est plus annoncée. Donc voilà, rien ne justifie ce choix.
Alors, peut-être pour enchaîner, on a souvent dit ici notre intérêt, parfois notre admiration, des fois notre agacement devant le travail de Dmitri Tchernyakov dans ses relectures des ouvrages. Alors, Emmanuel Dupuis avait la parole, il la garde un instant pour nous dire quels sont les partis pris, pour dire un peu de façon générale, de cette mise en scène.
De façon générale, c'est compliqué. Si ce n'est que Tchernyakov...
Laurent Buret boue déjà.
Essaie de plaquer sur l'ouvrage certaines de ses obsessions, c'est-à-dire le psychodrame familial d'une part, et puis le jeu de rôle aussi, mais tout ça, et contrairement à ce qu'il a pu faire à d'autres occasions, n'est pas très bien assumé. Et puis surtout, moi, j'ai eu l'impression dès le départ qu'il y avait dans ce spectacle quelque chose qui sonnait faux, que les éléments étaient plaqués sur l'œuvre sans véritablement d'adhérence d'une certaine manière. Mmh. Et ça dès le début, parce que dès le début on voit donc côté cour un salon assez richement décoré où entre une famille royale d'aujourd'hui, mmh, et qui prend la pose pour faire une photographie. Et donc les surtitres nous expliquent qui sont les membres de cette famille royale. Il y a Priam, Cassandre, Hécube, etc. Ça, c'est côté cour. Et côté jardin, on voit une cité en béton. C'est des immeubles en béton très délabrés. Mmh. Bon, c'est visiblement un paysage de guerre. Mmh. Et là, le chœur arrive et commence à chanter son chœur de liesse pour célébrer la fin de la guerre, justement. Et tout ça en dansant comme s'ils étaient en boîte de nuit ou dans la fièvre du samedi soir. Et déjà, ça colle pas. Il y a quelque chose qui sonne faux. Parce que déjà, pour danser comme dans la fièvre du samedi soir, il faut savoir le faire, les choristes ne savent pas très bien le faire, et ça colle pas, quoi. Je veux dire, il y a une dichotomie entre ce qu'on entend et ce qu'on voit, et ça sera comme ça pratiquement pendant tout l'opéra. Par exemple, un peu plus tard, Cassandre chante son monologue devant une caméra de télévision, comme si elle était en train de donner une interview. Mmh. Ça n'apporte strictement rien. On a l'impression que c'est un gag de mauvais théâtre de province allemande, et voilà. Et il y aurait plein d'exemples comme ça à citer, mais je vais peut-être laisser mes camarades qui sont impatients d'intervenir.
En saluant au passage les provinces allemandes.
Oui.
Où se font de remarquables spectacles aussi souvent. Laurent Burie.
Oui, je voulais juste dire qu'en fait, je suis d'accord, mais encore, tous les exemples qu'on vient de donner ne sont rien par rapport à ce qui suit. Parce que je pense qu'il y a dans ce spectacle quand même une coupure assez nette entre les deux parties. D'ailleurs, celles qui ont été découpées au moment où l'œuvre a été créée en France, la partie 3, la partie Carthage. 3, de mon point de vue, marche plutôt parce que là, Tchernyakov est dans un domaine qui lui est familier, celui de l'actualisation, et effectivement, une guerre, une situation de ville délivrée après 10 ans de guerre, ça, c'est facile à actualiser, on a des images équivalentes de nos jours, et cette histoire de famille royale, là, effectivement, on retombe dans l'obsession des psychodrames familiaux, mais disons,
pour vous, ça passe encore.
Ça marche à peu près. Ça n'est pas très bien réalisé.
Mais il boule de son côté.
Je dirais que l'idée est bonne, qu'elle n'est pas forcément très bien réalisée. En revanche, une fois qu'on est à Carthage, là, Dimitri Tchernyakov a un gros problème parce que un prince troyen qui a quitté sa ville détruite et qui arrive dans une autre terre où il va s'éprendre d'une reine, ça, c'est beaucoup plus difficile de trouver un équivalent moderne. Et donc là, Tchernyakov s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais réutiliser ce qui a si bien marché dans Carmen à Aix-en-Provence. Et Carmen, moi, j'avais tout à fait adhéré à ce qu'il avait fait, c'est-à-dire le sang. Alors, dans Carthage est devenu un centre de soins en psychotraumatologie pour victimes de guerre. C'est écrit au-dessus de la scène pour qu'on comprenne bien. Et dans ce centre de psychotraumatologie, il y a une personne. Alors moi, j'ai cru que c'était la directrice. Les gens me disent non, c'est une patiente, une dame en robe jaune qui est habillée
Déjà, le fait qu'on ne soit pas sûr,
c'est un peu embêtant. Et cette dame porte une robe jaune comme la femme défunte d'Aîné. Et c'est pour ça qu'Aîné va pouvoir s'y intéresser, mais pas longtemps, parce que finalement, il n'est pas du tout tombé amoureux de Didon. Enfin, je ne sais pas, corrigez-moi si je me suis trompé, mais moi, je n'ai pas vu un seul instant
Effectivement, est tombé amoureux de Didon.
Et donc, cette dame que tout le monde salue comme notre reine, on lui fait une grande fête au début de la partie de Carthage, et on va retrouver ce qu'il y avait dans Carmen, mais qui là se justifie beaucoup moins bien, c'est-à-dire les jeux de rôle avec des pancartes qu'on brandit pour dire voilà, on est à tel endroit, il se passe telle chose.
Alors, Emmanuel Giuliani qui vous écoute sagement tous deux depuis tout à l'heure.
Oui, alors qu'ajouter, je suis assez d'accord, et en effet, 3 est quand même plus convaincant que Carthage. Parce que, pour ce qu'a dit Laurent, parce que quand même le décor, moi j'ai trouvé comme très souvent chez Tchernyakov, et notamment sur cet immense plateau de la Bastille, il sait l'occuper. Et donc il y a visuellement quelque chose d'impressionnant. Alors après on peut apprécier ou pas l'esthétique, trouver que les lumières éternellement les mêmes dans l'acte de Carthage, on en a très vite assez. Mais en tous les cas, voilà, il y a une occupation de l'espace assez bien faite. Et puis parce que cette famille royale, complètement en décalage par rapport à ce qui va se passer, qui essaye de se maintenir devant l'objectif de Jour de France, alors que Jour de Troie plutôt, alors que la catastrophe est imminente, à part Cassandre qui elle a tout compris mais que personne n'écoute, pourquoi pas, ça marche pas trop mal. Ce que je n'ai pas compris, je ne vois pas du tout la nécessité, c'est de nous montrer qu'il y a eu une relation incestueuse entre Priam et Cassandre. Qui expliquerait pourquoi Cassandre est à part, alors que la raison mythologique pour laquelle Cassandre est à part, c'est parce que aimée d'Apollon, il l'a maudite, etc. Et c'est tellement beau ce mythe que pourquoi aller en inventer un autre? Et puis d'autre part, Aîné est le traître, le cheval de Troie. C'est Aîné qui, parce que Priam ne l'a pas promu suffisamment et notamment son rejeton, se dit bon bah alors Priam, il est fini, j'appartiens au monde nouveau, etc. Why not? En revanche,
Mais
Carthage, en effet, le gros problème, c'est que la dimension héroïque, qui n'existe pas en effet dans Carmen, et donc ça peut fonctionner, là, comme dans Macbeth, même si c'était des héros de sang, ne marche pas, parce que quand on a affaire en effet à des princes et des reines, il faut trouver quelque chose qui rende ça. Et là, ça ne marche pas.
Alors, plus beaucoup de temps, mais quand même, on parlait de musique. On a entendu cet extrait tout à l'heure. Vous avez un peu fait des grimaces. Vous avez déjà, Emmanuel Giuliani, dit votre peu de goût pour la direction de Philippe Jordan. Vous y reviendrez sans doute. Laurent Burry.
Oui, elle est lourde et lente. Il n'y a pas grand-chose à sauver, malheureusement. Des passages qui devraient être des moments de grâce deviennent pesants.
Lourde et lente, c'est très bien. Enfin, ça me suffit comme commentaire, en tout cas, pour l'instant. Emmanuel Dupuis.
Oui, enfin, moi, j'avais l'impression pendant toute la soirée qu'il y avait une sorte de flottement rythmique. Bon, on dit souvent que Berlioz est un génie de l'orchestration, mais c'est aussi un génie du rythme. Alors là, il y avait pas de vraie structure rythmique. Ça flottait tout le temps. Et il y avait des problèmes de cohésion, au sein de l'orchestre et entre la fosse et le plateau. Et puis, effectivement, un sentiment d'inertie, le sentiment que la musique n'avançait pas. Ce qui est quand même un souci sur une œuvre aussi longue.
Emmanuel Giuliani.
Et pas de lyrisme dans les grands passages magnifiques. Là, on a entendu ce duo où l'orchestre doit halter. Ça n'allait pas du tout. Ce qui est compliqué avec Berlioz, c'est que vraiment, on a l'impression que quand c'est pas ça, on reconnaît à peine sa musique. Et là, moi j'avais eu le même sentiment avec les Troyens dirigés par Antonio Papano à Covent Garden. C'était visiblement la partition, mais on ne reconnaît pas ce qui fait la singularité absolue et irréductible de la musique de Berlioz. Et là, c'est pareil, les chœurs sont à l'avenant, alors qu'ils avaient fait de belles prestations en début de saison, là je trouve qu'ils sont retombés dans toutes leurs ornières de crier, de pas être ensemble, les voix féminines sont pas belles, enfin, on retrouve tout ce qui semblait avoir été très très bien amélioré ces derniers temps. Non, il y a vraiment un problème terrible là.
Alors, quelques mots, pardon, mais rapidement sur le plateau vocal. Tiens, Emmanuel Dupuis pour commencer.
Alors d'abord, on attendait la prise de rôle de Stéphanie Doustra qui chantait sa première Cassandre. Alors bon, c'est une artiste avec un sens de la déclamation quand même assez admirable, très noble, mais le problème c'est que c'est pas une grande voix, et à Bastille
ça ne pardonne pas,
et notamment les extrêmes de la tessiture, elle est assez ça manque vraiment d'éclat, quoi, et donc l'incarnation est un petit peu timide pour cette raison.
Aviez partagé par vos camarades?
Oui, moi j'étais très près, donc je l'ai bien entendu, et c'est vrai, je me disais, dans une petite salle,
j'aimerais
Cassandre, si digne et si tragique et si habitée.
Et donc il faut faire avec. Un autre rôle, Laurent Burry.
Moi j'ai plutôt apprécié la Didon d'Ekaterina Semenchuk, qui m'a paru, au contraire, elle, avoir l'ampleur, au moins la dimension, le volume sonore nécessaire pour remplir cette salle immense.
Mais pas toujours la qualité de ligne. Enfin, on l'a entendu là.
Son français n'est pas si mauvais. On la comprenait. Il y a d'autres personnes qu'on ne comprenait pas forcément aussi bien. Mais enfin.
Et puis, bon, il y a quand même la santé vocale. Enfin, j'étais à la deuxième et non pas à la première, comme vous, de Brandon Jovanovic, qui est né. Et les nés, on n'en trouve pas à tous les coins de rue actuellement. Alors, vous me direz, si on n'en trouve pas, on n'a qu'à pas monter les Troyens. Mais il s'en sort quand même pas mal. Et il a le mérite de réussir à peu près, même plutôt bien, à chanter son grand air, voilà. Alors que, à ce moment-là, Tcherniakov le fait s'agiter dans tous les sens, déambuler, marcher, mettre les mains dans les poches, enlever les mains. Et donc, c'est épuisant à regarder, sans doute pour lui, et il s'en sort. Donc, rien que pour ça, on peut lui tirer un peu son chapeau, sa couronne.
Vous voulez dire un dernier mot très rapide, Emmanuel Dupuis, parce qu'on a
non,
du,
oui,
du,
dans, du dire que ce, programme derrière. En revanche, les Pirolles sont quand même, dans l'ensemble, mis à deux ou trois exceptions près, sont quand même très bien distribuées, notamment avec Michel Lozier dans le rôle d'Ascagne, Véronique Jean en écube qui a simplement deux, trois répliques à chanter, c'est le grand luxe, et puis surtout Stéphane Degout qui chante Coureb et qui est absolument magistral, quoi, avec lui justement un art de couler le flot de la parole dans le chant qui c'est vraiment du chant de haute école.
Bon, et le Yopas de Cyril Dubois. Oui, c'est toujours ce moment, voilà, ouais, où la Berlioz est là.
Ouais. Bon, Les Troyens d'Hector Berlioz, mise en scène Dmitri Tcherniakov, direction Philippe Jordan, jusqu'au 12 février à l'Opéra Bastille. Et surtout, pour la plupart des gens, une retransmission sur Arte et Arte Concert, alors en léger différé, oui, léger de quelques heures, le 31 janvier, donc après-demain, à 22h45. J'imagine qu'on pourra le voir ensuite en Arte plus 7. France Musique diffusera plus tard cette production des Troyens. À suivre dans la dispute, donc un comparatif de deux versions de Wozzeck, et puis le coup de cœur de Laurent Burry pour une version ancienne, historique, de Péléas et Mélisande.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute alors avec un double programme, car nous vous proposons à présent un comparatif de deux versions de Wozzeck d'Alban Berg, toutes deux en DVD. L'une mise en scène par William Kentridge, dirigée par Vladimir Jourovski, qui a été donnée à Salzbourg en août 2017, qui est donc sortie en DVD et Blu-ray chez Harmonia Mundi. L'autre est mise en scène par Christophe Warlikowski, dirigée par Marc Albrecht, et donnée à Amsterdam au printemps 2017, sortie en DVD et Blu-ray chez Naxos. Alors peut-être quand même, pour un petit rappel avant de parler de ces deux productions, pour dire que Wozzeck est donc un opéra en trois actes, écrit et composé par Alban Berg, qui est composé entre 1912 et 1922, créé en 1922 au Staatsoper de Berlin. Wozzeck s'inspire de la pièce Wozzeck de Georg Büchner, inspirée elle-même d'un fait divers survenu en 1821, un soldat qui avait assassiné sa maîtresse, qui a été exécuté quelques années plus tard. Il n'était pas. On a décidé qu'il n'était pas fou au moment de son acte. Büchner, lui, n'a pas terminé cette pièce. Berg l'a adaptée, il a supprimé certaines scènes, il en a inversé l'ordre d'autres. Il a adapté lui-même le livret. Pour résumer, alors à l'extrême, pour aller vite, Franz Wozzeck est un soldat qui a eu un fils avec Marie, une ancienne prostituée, ce que le capitaine de Wozzeck utilise pour l'humilier, d'autant qu'ils ne sont pas mariés. Wozzeck va servir aussi de cobaye pour les expériences d'un médecin, être victime d'hallucinations, tout ça évidemment effraie et éloigne Marie, qui va se réfugier dans les bras du tambour major, ce que Wozzeck va découvrir. Il tuera Marie avant de se laisser noyé. Je vais très vite, il y a un enfant qui est là évidemment, et on va voir que l'enfant n'est pas tout à fait traité de la même façon dans les deux productions. Alors justement, parti pris respectif des mises en scène, tout à l'heure on écoutera deux fois le même air, mais on va commencer par les visions de Christophe Warlikowski, de William Kentridge. Visions respectives, défauts et qualités, un premier tour de table. Moi je dirais que Warlikowski fait du Warlikowski, Kentridge fait du Kentridge, mais quand j'ai dit ça, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces metteurs en scène, on n'a pas dit grand chose. Laurent Burry, tiens, allez.
Bon, alors, William Kentridge situe ce Wozzeck pendant la Première Guerre mondiale. On a, comme toujours avec lui, énormément de projections de choses dessinées par lui-même, en fond de décor, sur le décor même, toutes ces projections apparaissent. Projections qui permettent à chaque fois d'évoquer le lieu où se passe l'action. Quand Wozzeck se promène dans une lande marécageuse où il voit une tête apparaître, c'est une de ses hallucinations, on la voit apparaître dessinée. Donc on nous montre vraiment tout ce qui est censé être visible par les protagonistes. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est une version assez fidèle, assez proche du livret. Et en même temps, elle prend quelques libertés, puisqu'il y a une présence de figurants portant des masques à gaz. Ça, c'est toujours l'évocation de 14-18. Et en particulier, vous avez fait allusion, l'enfant de Marie et Wozzeck, qui est ici remplacé par une marionnette. Marionnette qui est elle-même affublée d'un masque à gaz. Et donc, ce choix...
Manipulé par
deux manipulateurs. Par une ou deux personnes. Oui, ça dépend des moments, scènes. Oui. Voilà. Au contraire, Krzysztof Warlikowski, lui, nous transporte plutôt dans les années 1970, dans un lieu, un pays indéterminé, mais quelque part en Occident, on va dire. Et le Vautsack qu'il nous montre est plus coiffeur que soldat. En fait, le vrai était les deux, oui, apparemment. Il est coiffeur et c'est un pauvre type. C'est un malheureux à qui plein de choses arrivent.
C'est presque l'idiot du village.
Limite, oui, c'est un peu l'allure qu'on lui a fait, qu'on lui a faite. Marie est franchement une prostituée, là, je trouve nettement plus.
Elle n'a pas raccroché.
Non, voilà, ce n'est pas une ex, elle l'est toujours. Et aussi, il y a un élément qui sert de fil rouge, qui est une sorte de concours de danse de salon pour petits enfants. Et cette image-là, qui est récurrente, représente une société peut-être à la fois guindée, où on impose certains comportements aux humains dès leur enfance, et Vautsack, lui, n'arrive pas à s'intégrer dans cette société-là, et finalement, il commettra le crime, et il se suicidera, on le voit, qui s'ouvre les veines à la fin.
Alors, Vautsack ne s'intègre pas, mais pas plus que l'enfant qui est là, pour le coup, bel et bien présent tout au long de cette production mise en scène par Warlikowski, qui s'ouvre d'ailleurs donc par ce concours de danse.
Il y a un long prologue, en fait,
très long,
avant
le
début.
Au moins 10 minutes.
7 minutes, oui, à peu près, avant que l'œuvre commence.
Avant qu'on entende la musique de Berg, et on voit déjà que le fils est mis sur. Banc.
Il est tenu à l'écart.
Emmanuel Dupuis.
Il est tenu, l'enfant de Marie, dès le départ, est tenu à l'écart. Il est rejeté. Et ensuite, il sera présent pendant pratiquement tout l'opéra. Et il va assister au drame avec une sorte d'indifférence assez glaçante. Et en fait, Warlikowski nous montre l'histoire de Vautsack et de Marie à travers le regard de l'enfant. Et on a le sentiment... Alors bon, ce sont deux spectacles qui Laurent l'a très bien décrit, qui ont deux esthétiques totalement différentes. Pour moi, le spectacle de Country, je pose certains problèmes. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Oui.
Mais celui de Warlikowski a une véritable force, parce qu'on a bon, c'est un univers extrêmement glaçant. On a cette espèce de vaste décor très ouvert, et puis c'est ces lumières très crues, et on a l'impression d'assister à une auscultation des âmes implacables. Et ce que fait Warlikowski en termes de direction d'acteur est époustouflant, et notamment avec le personnage de Vautsack. Il en fait une sorte de grand ado attardé, mais qui a visiblement de sérieux problèmes psychologiques. C'est pas une brute épaisse comme on voit souvent.
Non, mais il est agité par ses pulsions, on va dire.
Oui, voilà quoi. L'interprète du rôle, Christopher Maltman, est absolument génial, parce que en quelques regards, en quelques mimiques, on comprend que il a pas toute sa tête, quoi. Et même si c'est pas une brute épaisse, il fait vraiment peur, quoi. Je veux dire, c'est le génie de la direction d'acteurs de Warlikowski qui est extraordinaire, et qui fait que on ne voit plus des chanteurs, on voit des acteurs. Et c'est la même chose pour Eva Maria Westbrook,
qui chante
Marie, qui a une voix immense, mais qui occupe physiquement l'espace de façon assez époustouflante.
Ouais, mention particulière pour cet enfant, moi, qui m'a tout
et à fait... Et aussi pour l'enfant, et puis...
Glacé, bon, terrifié, et donc, intrigué...
Et pour la fin de l'opéra, je ne sais pas si on peut révéler...
Oh tiens, on ne révèle pas. On ne divulgage pas la fin de cette production.
En tout cas, la fin est très inquiétante, et on se dit que l'histoire va recommencer.
Et très bien trouvée.
Et c'est
également
très, très bien fait, ça.
Emmanuel Giuliani.
Alors, j'ai pas du tout, moi, adhéré de la même manière que vous. Alors, j'ai vu, je n'avais vu aucune des,
donc,
à celle de Warlikowski. Oui, j'ai regardé d'abord Kentridge et après Warlikowski. Alors, c'est vrai que peut-être la partie musicale m'a influencée aussi. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Warlikowski fait du Warlikowski extrêmement bien à sa manière. Mais je trouve que ce que vous avez très bien décrit appuie, surligne et ajoute une couche pas forcément utile pour nous montrer des caractères extrêmement outrés, extrêmement non évolutifs, en particulier Marie, qui est un peu, parce qu'elle change beaucoup de costumes. C'est une mise en scène très capillaire aussi. On change énormément de costumes, de perruques, etc. Mais autrement, je trouve tout ça est tellement surligné et surtout la dimension de poésie, parce que malgré l'horreur de cette histoire, le côté glaçant, vous avez bien souligné, il y a deux choses qui me semblent totalement absentes. Un immense sentiment de la nature, qui est tout le temps dans la musique, et que là on n'a pas du tout, sinon dans quelques plantouilles dans un aquarium, puisque Varlikovski a toujours, mais là ça va avec votre sec, puisque l'eau est très importante, son fantasme mais là on n'a plus de baignoire et de lavabo, on a un aquarium. Oui, mais bon, on se noiera pas dans un verre d'eau, mais dans un aquarium. Et donc cette impression de poésie, malgré l'horreur, et de dilatation due à la nature, est totalement absente. Alors que chez Kentridge, moi, il m'a semblé
vous l'avez
que elle...
chez Kentridge.
Oui, moi, je l'ai chez Kentridge à cause de la du côté, comme il fait toujours. Alors, on peut dire qu'il fait son propre système où
lui
la
aussi.
Deux dimensions et trois dimensions ne cessent de se mêler et de donner une impression de vertige, de profondeur. Et tout à coup, ça se rapproche de. Il illustre, il réussit visuellement à faire ce que Berg fait avec les interludes orchestraux, c'est-à-dire l'absence de solution de continuité. Donc moi, il me semble que ça, c'est, on est beaucoup plus dans la fusion entre ce qu'on voit et ce qu'on entend.
Ah oui,
c'est voilà. Vrai
pour Kentridge, moi, cette accumulation fait que j'y vois rien.
C'est ça.
Enfin, il y a une sorte de débauche. Et ça, c'est vraiment c'est sa tentation très souvent chez Kentridge, c'est ça. Mais là, je trouve que c'est atteint un genre de sommet. Emmanuel Dupuis.
Oui, j'ai exactement la même impression. Et bon, il se trouve que j'ai vu ce spectacle
à Salzbourg,
dans la salle. Et même dans la salle, on avait ce sentiment-là, un sentiment de saturation.
Ce qui est recherché, on comprend.
Oui, mais c'est. Alors, moi, bon, effectivement, ça crée peut-être quelque chose d'un climat oppressant, mais c'est quand même un spectacle qui visuellement est très complexe. D'abord, on a ce décor qui est lui-même complexe, puisque c'est une sorte de grosse compression avec plein d'objets en bois, des armoires, des tables, des praticables.
Des passerelles, des praticables en bois.
Alors des objets qui sont bien utilisés par moment, mais alors en plus sur ces objets sont projetés des dessins de Kentridge et parfois des films d'animation. Alors sur les objets et puis sur le grand cyclorama qui est en fond de scène. Donc tout ça fait quelque chose d'assez complexe. Et je trouve que en termes de direction d'acteur, pour le coup, et alors là, la captation, les gros plans le soulignent vraiment, c'est quand même assez sommaire. Et notamment la pauvre Asmik Grigorian qui chante Marie. Bon, elle chante très bien, mais si on la compare à Westbrook, elle est totalement écrasée par Westbrook. Alors que Asmik Grigorian, elle était fabuleuse l'été dernier à Salzbourg dans Salomé, parce qu'elle était dirigée par Casellucci. Quand elle est poussée dans ses retranchements, elle peut être une immense artiste. Là, non, on voit une chanteuse qui chante très bien le rôle, mais point barre, c'est pas une incarnation inoubliable du tout.
Alors, puisqu'on fait ce comparatif, faisons-le quand même en musique. Dans cette double séquence de la dispute, on va entendre successivement le même passage dans les deux productions, celui de la mort de Marie sur une judicieuse idée d'Emmanuel Dupuis. Nous avons tous approuvé. On va commencer par la version Varlikovski-Albrecht, donc avec Eva Maya Westbrook dans le rôle de Marie et Christopher Maltman dans celui de Wozzeck.
Ist weit gegangen, Marie, sollst dir die Füße nicht mehr wund laufen. Es ist still hier und so dunkel. Weiß noch, Marie, wie lang es jetzt ist, dass wir uns kennen.
Zu Pfingsten 3 Jahre.
Und was meinst, wie lang es noch dauern wird?
Ich muss fort!
Fürchst dich, Marie, und bist doch fromm. Gut und treu.
was du für süße Lippen hast, Marie. Den Himmel geb ich drum und die Seligkeit, wenn ich dich noch oft so küssen würd. Aber ich darf nicht. Was zitterst?
Emmanuel Giuliani. Voilà, première version. Nous venons d'entendre, on va entendre le même air. Je préviens nos auditrices auditaires dans quelques minutes à peine. Commentaire sur la dimension musicale de cette production dont vous n'avez guère goûté la mise en scène.
Eh bien, je n'ai guère goûté non plus la dimension musicale. C'est vrai que Eva Maria de Weisbruck est une artiste qu'on aime énormément, qui a une très forte présence. En plus, je crois, les gens qui la connaissent disent que c'est une femme absolument délicieuse, charmante, qu'elle a un engagement. Mais vocalement, c'est vraiment très, très difficile maintenant. Et Marie n'est pas qu'un rôle où il faut avoir du volume et de la présence charnelle. Ça, elle l'a absolument. Il faut aussi vocalement, notamment dans ce passage si beau avec l'enfant où elle lit la Bible, où elle évoque Marie-Madeleine, il faut chanter. Et vraiment, c'est une voix trop en lambeaux maintenant pour pouvoir donner vraiment la dimension musicale et poétique politique, j'y reviens du rôle. Christopher Maltman, je trouve que c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un très bon comédien, il a vraiment cette présence du regard, même à travers ses lunettes, là, dans Marnie, au Metropolitan Opera, où il faisait Sean Connery, pour aller un peu vite, il avait aussi ce regard très, très magnétique, mais vocalement, c'est un peu platounet. Et puis, il y a le problème de la direction de Marc Calbrecht et de la qualité de l'orchestre, où là, ça pardonne pas quand on compare à l'autre version.
Emmanuel Dupuis.
Oui, moi, vocalement, j'ai un peu de mal à dissocier l'aspect théâtral et l'aspect purement vocal, effectivement, dans l'incarnation de Maltman et celle de Westbrook. C'est vrai que Westbrook, c'est peut-être une trop grande voix aujourd'hui pour chanter Marie. Peut-être qu'on attend une voix peut-être un peu plus lyrique, un peu plus pour exprimer les fragilités du personnage. Et là c'est, effectivement, c'est pas le cas. Mais ils sont tellement transfigurés tous les deux par la direction d'acteur de Verlikowski.
Ça emporte votre adhésion, mais la direction d'orchestre alors
la direction d'orchestre
en effet.
Oui, effectivement, bon, là c'est il faut dire que dans la version
l'orchestre philharmonique des Pays-Bas.
Voilà, là dans la version dans la mise en scène de Verlikowski, c'est l'orchestre philharmonique des Pays-Bas, et dans la version de Kentridge, c'est l'orchestre philharmonique de Vienne. On ne joue pas tout à fait dans
la même catégorie,
Et c'est pas tout à fait la même esthétique. Marc Albrecht dirige c'est une direction un peu plus moderniste, on va dire, que celle de Jurowski, qui va bien avec la mise en scène finalement, parce que c'est très dru, très acéré, mais il y a quand même quelques baisses de tension, je trouve, sur la longueur, qu'il n'y a pas chez Jurowski. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire avec Jurowski, c'est que Jurowski se souvient vraiment d'où vient Wozzeck, qui s'inscrit dans une tradition viennoise, que Berg procède de Mahler, et on entend justement un souffle mahlérien dans sa direction, qui est absolument irrésistible. Et puis évidemment, les couleurs du Philharmonique de Vienne, ça c'est absolument irremplaçable.
Alors, puisque vous en parlez, avant de donner la parole à Laurent Buret, pour pas que ça s'éloigne trop des oreilles de nos auditeurs et auditrices, on écoute à présent la version Mort de Marie, la version Jurowski.
Du sollst da bleiben, Marie, komm, setz dich.
Aber ich muss fort.
Komm! Ist weit gegangen, Marie, sollst dir die Füße nicht mehr. So dunkel. Weiß noch Marie, wie lang es jetzt ist, dass wir uns kennen. Was meinst du, wie lang es noch dauern wird?
Ich muss fort!
Schütz dich, Marie, und bist doch fromm und gut und treu. Was du für
kalt
ist dir.
Ich nicht, Ari, und kein anderer auch nicht.
Voilà pour cette version Jourovski dans la production mise en scène par William Kentridge. Donc Laurent Burry, maintenant qu'on a entendu ces deux versions de La mort de Marie.
Je ne vais pas forcément ajouter grand-chose à ce qui a déjà été dit. On a effectivement deux Fawcett aussi très différents entre ces deux versions, entre le côté nounours de Mathias Goerne qui porte toute la misère du monde sur ses épaules et le Fawcett plus baryton, plus clair et aussi plus incisif, souvent, de Christopher Maltman. Après, quant à leur prestation d'acteur, ça, c'est un peu le jour et la nuit aussi. Pour les deux maris, on a d'un côté, avec Yasmine Grigorian, une Marie dont la voix est très pure, très belle, mais à qui on ne demande pas grand-chose scéniquement. Et à côté de ça, Eva-Maria Westbrook, dont je ne dirais pas que la voix soit trop grande, pas du tout. Et je trouve même que c'est intéressant d'avoir une voix un peu straussienne pour faire... Enfin, dans la volupté, du moins. Mais après, dans l'état où elle est maintenant,
très surprise.
L'aigu bouge beaucoup. Enfin bon, voilà, elle n'est plus ce qu'elle a pu être au temps de sa splendeur.
Mais c'est une nature, comme on dit.
Oui, voilà. Et à l'écran, c'est incroyable. Je vais juste dire un mot aussi pour le capitaine de Marcel Beckmann, qui est assez impressionnant dans son genre, alors qu'on a... Un capitaine beaucoup plus discret dans l'autre version.
Bon, lequel acheter ? Alors les deux, si vous pouvez, vous voulez faire offrir, c'est encore mieux. Emmanuel Gianni, on a compris
Oui, sans aucun doute. Et puis parce que aussi Kentridge, pour l'orchestre, la direction Kentridge, d'orchestre qui rend compte de toute la variété et des couleurs de cette œuvre, là où Marc Albrecht et son orchestre font toujours de la musique très brutale, violente et sans nuance, alors qu'il y en a tellement. C'est tellement génial quand même cette partition. C'est...
Emmanuel Dupuis, vous votez
pour Varlikovski pour le théâtre et Jourovski pour la direction
musicale. Ah oui, on peut
musicale.
Faire ça.
Voilà, il faut mettre le son de l'un et l'image de l'autre.
Ça va être un peu compliqué de synchroniser. Wozzeck, d'Albanberg, toutes deux en DVD, mise en scène William Kentridge, direction Vladimir Jourovski, Salzbourg, août 2017 en DVD et Blu-ray chez Harmonia Mundi, réalisation Tiziano Mancini. Mise en scène Christophe Varlikovski, direction Marc Albrecht, Amsterdam, mars-avril 2017, DVD Blu-ray chez Naxos, une réalisation de François Roussillon. Nous n'avons évidemment pas oublié la séquence du coup de cœur déplacé ce soir, après ce double programme Wozzeck. Ce soir, le cœur de Laurent Burry bat pour une version de Péléas et Mélisande qui nous arrive depuis l'année déjà lointaine, 1962. L'opéra de Debussy, dirigé ici par Ernest Ansermet. C'est en deux CD chez Malibran. On écoute un petit extrait.
Je vous l'ai dit dans les mains, je vous l'ai dit dans la bouche. Je les tiens dans les bras, je les mets autour de mon cou. Je n'oublierai plus les mains cette nuit.
Est-ce moi qui va me faire tomber?
Non, 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 je n'ai jamais vu de
On peut évidemment jamais arrêter proprement, là, ça continue sous mon oreille, un Pélias et Mélisande, ce long flux. Alors pourquoi cet enregistrement, d'où nous arrive-t-il, Laurent Burie ?
Alors c'est une version, comme vous l'avez dit, qui date de 1962, c'est une représentation donnée au Met, où on donne régulièrement, et on est encore en train de le donner en ce moment d'ailleurs, l'opéra de Debussy. C'est une version qui n'a pas été si souvent que ça publiée en disque. Elle est de ce fait assez rare et elle est diffusée par le petit label français Malibran qui est spécialisé dans l'opéra français, souvent par des interprètes bien français. Mais là, il s'agit d'une version où il n'y a aucun francophone. Puisque le Metropolitan est fidèle à sa tradition de n'inviter que de très grandes voix. Et justement, c'est ce qui fait l'intérêt de cette version, car c'est un Pélias un peu inhabituel. On y retrouve des noms comme Nicolas Guéda, qui est un francophone honoraire malgré tout, qui fait un Pélias ténor, mais tout à fait intéressant dans sa façon justement de se plier aux exigences d'un rôle qui a été créé par un baryton. On a une Mélisande qui est Anna Moffo, qui était une Traviata, qui était une Manon, donc qui fait un personnage complètement différent aussi des Mélisandes qu'on a l'habitude d'entendre. Et Angolo George London, qui est une sorte d'ogre à la voix démesurée. Du coup, il est difficile de faire un Arkel solide à côté de lui, mais il s'en sort quand même. La Geneviève est très bien. Par curiosité, vous avez Teresa Stratas en Ignold. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux.
Non,
mais
c'est une curiosité.
Oui, voilà, une curiosité. Mais l'enregistrement vaut aussi, surtout par son chef, parce qu'Ernest Ansermet, c'est quelqu'un qui connaissait vraiment très très bien Pélias, qui en a fait de superbes enregistrements de studio. Et c'est vraiment la version qui pourrait peut-être convaincre les gens qui n'aiment pas Pélias de se mettre à l'aimer.
Ah bah écoutez, alors rien que pour ça, évidemment, c'est le meilleur argument de vente. Ils vont rajouter un bandeau, je crois, chez Malibran. signé Laurent Burie, cette belle déclaration pour cette version, cet enregistrement de 1962 au Metropolitan Opera de New York de Pélias et Mélisande de Claude Debussy, donc deux CD chez Malibran. Avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et c'est Sarah Dion qui nous rejoint, comme chaque soir, pour nous rappeler dans un premier temps la question de la veille et nous donner la réponse. Sarah ?
La question d'hier était: à quelle dynastie la reine d'Égypte antique, Cléopâtre, appartenait-elle ? Et la réponse est aux Lagides.
Ce soir, des invitations à gagner pour un spectacle qui se joue à la Comédie de Valence. C'est « Certaines n'avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka, mise en scène par Richard Brunel. Des places à gagner pour samedi 2 février à 20h à la Comédie de Valence. Donc la question:
pour quel prestigieux prix littéraire américain Julie Otsuka a-t-elle reçu une nomination?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez nous réécouter ou nous podcaster. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Voilà, il faut que je sache quel jour on est. Nous sommes mardi, là c'est mercredi. Mercredi c'est arts plastiques. Il y aura Sarah Hilaire Meyer, Anaël Pigeat et Florian Guettet. Nous parlerons de deux expositions visibles en ce moment à Dunkerque, Que fut 1848, c'est au Frac et Grand Large. Et puis un autre œil d'Apollinaire à Aujourd'hui, au lieu d'art et d'action contemporaine de Dunkerque, le Lac. Et puis Idiolecte, une exposition de galerie, celle de Camille Yobé, et un coup de cœur de Florian Guettet pour Nous ne sommes pas, nous devenons, exposition d'Ariane Lose au Centre d'art contemporain de Clamart.